Bonjour et bienvenue à bord de ma mobylette de l'espace sur les routes de la musique. Allez, aujourd'hui, on révise nos classiques. On va se poser cette question qu'on s'est déjà posée, mais qui est tellement magnifique. La beauté a-t-elle un sexe? Nous allons partir de la beauté torride de Nefertiti et des rivages du Nil au XIVe siècle avant Jésus-Christ pour voyager dans le temps jusqu'au sud de l'Italie au XVIIe siècle. Et nous allons tâcher de répondre à cette question fondamentale que se posaient les Byzantins, eux, au XVe siècle avant Jésus-Christ, pendant le siège de Constantinople, juste avant de tomber sous les canons turcs. Quelle est la nature du sexe des anges? Moi, je dis qu'une émission qui commence avec des anges, du sexe, de la musique, des statues égyptiennes, des Italiens et des Turcs, eh ben, c'est une émission qui ne peut partir que sur de bonnes bases.
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.
Starboy chanté par The Weeknd et Daft Punk. Le splendide buste de Nefertiti, la femme d'Akhenaton, trône désormais seule au milieu d'une petite pièce du musée égyptien de Berlin. Elle fut trouvée par des archéologues allemands au début du XXe siècle dans la tombe de Thoutmosis, le sculpteur officiel d'Akhenaton. Toutes les sculptures de ce tombeau sont uniques dans l'histoire de la statuaire égyptienne. Elles appartiennent à cette époque qui a duré moins de 20 ans et que l'on nomme époque amarnienne, du nom El Amarna que donneront bien plus tard les Arabes au site de l'antique cité d'Akhetaton, la cité du soleil. Ces statues représentent une parenthèse miraculeuse parce qu'elles sont en totale rupture avec le style académique. Elles donnent à méditer tant elles introduisent la vie dans les expressions auparavant immuables et figées. L'art égyptien avait pour ambition de montrer l'essence des choses et non leur réalité. L'art égyptien classique, c'est finalement Platon avant Platon. Platon, influencé par Pythagore, qui lui-même vécut 20 ans en Égypte, d'où il ramena la philosophie, les mathématiques, la musique et les écoles de mystère. Donc, Platon, l'Égyptien, en quelque sorte. Le concept platonicien selon lequel les idées sont les archétypes de la réalité, d'après lesquels sont formés les objets du monde, est pour ainsi dire né au bord du Nil. Et ça, on ne le dit jamais. Il va donner ce classicisme immuable, ces représentations humaines figées dans la pierre pour les siècles des siècles, jusqu'à la révolution akhénatonienne. Avant Akhénaton, sur les bas-reliefs égyptiens, hommes et femmes ne se distinguaient que par leurs attributs. Enlevez leurs costumes et vous seriez bien en peine de distinguer un pharaon de sa reine, tant leurs visages se ressemblent. Les traits fins du pharaon et le visage de la reine, légèrement masculinisés, semblent se croiser. La beauté de l'androgyne est remarquable, non par son caractère bisexuel, mais par la sérénité qu'il dégage. Lorsque Freud cherche à comprendre la bisexualité originaire, il se réfère au mythe d'Aristophane rapporté par Platon, une fois de plus, dans Le Banquet.
Akhénaton s'installe au coin du feu et nous raconte une histoire.
Aux premiers âges, l'humanité n'était pas du tout comme aujourd'hui. Il y avait trois sexes, les hommes et les femmes, bien sûr, plus un troisième, mixte, mâle et femelle. L'androgyne, on l'appelait.
Akhénaton nous lit Le Banquet de Platon.
Non mais Platon, il n'existait pas à l'époque d'Akhénaton.
Non, évidemment, mais c'est une image pour dire qu'Akhénaton est un précurseur.
À quoi pouvait bien ressembler un androgyne, d'après vous? À une boule, avec dessus quatre bras, quatre jambes, une seule tête, mais avec deux visages et quatre oreilles. Il pouvait marcher comme nous, les androgynes. Mais pour courir, il nous était bien supérieur. Avec leurs huit membres, ils faisaient la roue et circulaient à toute vitesse. Un jour, ne doutant de rien, ils voulurent s'attaquer aux dieux. Et immédiatement, sans mollesse, ils entreprirent d'escalader le ciel. Zeus, qui les voyait arriver en masse, cogitait ferme. Que faire? Je vais les couper en deux. Aussi secs, ils se retrouvèrent tous sectionnés, nets. Ces moitiés d'androgynes, en fait, étaient très malheureuses. Chaque moitié regrettait l'autre, la recherchait. Quand une moitié mourait, l'autre dépérissait et mourait à son tour.
Ah, c'est donc ça l'amour?
C'est d'elle que dérive dans notre monde actuel les hommes qui aiment les femmes et trompent la leur, et les femmes qui trompent leur mari parce qu'elles aiment les hommes.
Akhénaton referme son livre et conclut en nous regardant droit dans les yeux.
Prenons garde d'être encore cisaillés et d'avoir à circuler de profil comme des personnages de bas-relief, plats comme des carrelets.
Eh oui, dès lors, les corps des humains portent des endroits percés et chaque moitié de l'androgyne primitif cherche sa moitié complémentaire. C'est cela que les hommes appellent amour.
There's nothing that can be turned around. Nobody wants to feel alone. Everybody wants to love someone. Out of the tree, go pick a plum. Why can't we all just get along? Boys in the girls' room.
There's never been an oyster so divine. A river deep that never runs dry. What you need, 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 what you need.
The birds and the bees, they hum along. Like treasure, they twinkle in the sun. Get on board and have some fun. Take what you need to turn you on.
André Manoukian. Les routes de la musique sur France Inter.
La sérénité de l'androgyne, la beauté d'un visage féminin au menton légèrement carré, comme celui d'une reine égyptienne ou de la Joconde. La féminité d'un visage masculin, comme celui de Toutankhamon. Décidément, oui, la beauté est androgyne. Sa définition serait même la suivante. Un peu de féminin dans du masculin et un peu de masculin dans du féminin. Les visages hiératiques des pharaons et des reines d'Égypte, la figure sacrée de l'hermaphrodite chez les Grecs, les chamans qui portaient des robes et tantôt l'un et l'autre sexe pour avoir le pouvoir de prédire l'avenir, enfin la figure du phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres, qui n'a pas de géniteur et s'engendre lui-même dans un processus de combustion mystique où un bûcher lui sert de cercueil et de matrice.
Aujourd'hui, la recette de l'androgyne.
Nous ne sommes pas parfaits parce que nous ne sommes pas complets. Notre histoire est celle d'une rupture, d'un déchirement. Nous vivons comme dans le deuil de nous-mêmes. Et c'est sur cette obsession qu'apparaît, comme une fleur mystérieuse sur une terre noire, la figure de l'androgyne, celle qui souterrainement inspire l'appel de la femme vers l'homme, de l'homme vers la femme.
La perfection est un savant mélange de femme et d'homme.
C'est pas difficile. On met un demi-litre d'eau dans une casserole. 125 grammes de beurre. Une pincée de sel. On laisse fondre.
Au niveau de la Genèse, déjà Dieu est hermaphrodite. C'est la base, c'est la réalité.
Il y a des figurations qui représentent Zeus doté de deux rangées de mamelles.
Il y a deux principes. Un mâle
et un
féminin.
Prenez 40 kilos de femelle, 40 kilos de mâle, disposez le tout dans un bol.
Et on remue sur le feu. Il faut remuer fort, hein, parce que ça se colle et puis c'est dur. Là, vous voyez, il n'y a pas de grumeaux.
Ça y est.
L'androgyne est reconstitué.
L'image humaine complète, c'est-à-dire l'image divine originelle.
L'androgynie renvoie à l'immortalité. Et selon la psychanalyse, à un refoulement de la procréation. Puisque l'androgyne s'engendre lui-même, il possède les deux sexes. Fliss, l'ami de Freud, avec lequel il entretient une longue correspondance à ce sujet, croit découvrir une périodicité des processus vivants, notamment avec la menstruation féminine et son équivalent masculin qui porterait sur un cycle de 23 jours. Oui, il pense que chez l'homme, les organes du nez et les zones nasales, en général, sont le lieu de cet écoulement cyclique. Je me disais aussi qu'il y a des périodes dans le mot où je transpire de la moustache plus que de coutume. Les données de l'embryologie confirment ces hypothèses qui ne seront pas sans influence sur la théorie de Freud. Ce dernier insiste sur la bisexualité psychique et non plus biologique de l'être humain. Le sexe dominant dans la personne aurait refoulé dans l'inconscient la représentation psychique du sexe vaincu. Ainsi, chaque être humain refoulerait une position sexuelle du sexe auquel il n'appartient pas. La femme refoule l'envie du pénis auquel elle substitue fantasmatiquement son enfant. Je l'ai vécu. Un psy m'a raconté, moyennant 100 euros, que j'étais le pénis de ma mère. A contrario, l'homme a parfois une attitude féminine qu'il tâche de masquer. On déteste pleurer à la fin de Titanic et quand Céline Dion chante, on s'en veut tellement de ressentir un frisson coupable, alors on rit bêtement, on se moque. Quoi qu'il en soit, les deux attitudes renvoient pour Freud à l'idée maîtresse de castration.
Maîtresse castration, c'est la sœur de maîtresse Cindy ?
On va aborder la castration.
Tout être doit subir une castration. À la manière dont on castre un jeune taureau pour en faire un bœuf de labour, de travail.
Soit. Mais nous, on est castrés pour quoi faire ? Aimer plus ? Travailler plus ?
Le phallus, c'est cette problématique autour de laquelle Freud est arrivé à faire tourner toute l'évolution de la sexualité humaine, au point qu'il a montré qu'il n'existait qu'un seul sexe, le sexe masculin.
T'avais les garçons, ils ont un pénis, et puis les femmes, c'est pas qu'elles ont un vagin finalement, c'est qu'elles ont pas de pénis.
Et au final, on est tous castrés. Du pénis ou du phallus ?
Et alors le phallus, c'est pas le pénis.
Quand vous dites phallus au lieu de dire pénis ou verge, vous employez le mot
pénis, en y adjoignant tout ce qui, à travers les cultures, a fait du pénis un phallus, c'est-à-dire toute la puissance créatrice, à partir du moment où vous dites phallus, vous faites engouffrer dans ce phallus tant de valence et de potentialité symbolique, et qui fait éclater tous les schémas, fussent-ils freudiens.
Les schémas éclatent, mais le vagin dans tout cela, où est-il?
Il ne faut tout de même pas oublier que la femme, c'est la moitié du monde.
Freud, il a dit que... Bah, de toute façon, j'avais déjà un truc coupé, quoi. Je suis une fille, donc on m'a coupé la bite. Tu nais, t'es une meuf, et bim! On te coupe la teub.
Ça me semble tout de même un petit peu excessif.
Non, 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 et non, je ne suis pas un homme sans queue ni tête.
Que vous provoquez. C'est un cadeau d'une très grande valeur, Seigneur Farinelli.
Les castrats au XVIIe et XVIIIe siècle étaient des superstars. Bien sûr, nous avons en tête leur représentant le plus emblématique, Farinelli. Dominique Fernandez raconte la vie d'un castrat napolitain dans son roman Porporino, qui reçut le prix Médicis en 1974. Passionné par cet art perdu désormais, l'auteur s'insurge notamment contre Rousseau, qui dans son dictionnaire de musique s'emporte contre les castrats, les responsables de la castration et les admirateurs des castrats. Il se trouve en Italie des pères barbares qui, sacrifiant la nature à la fortune, livrent leurs enfants à cette opération pour le plaisir des gens voluptueux et cruels qui osent rechercher le champ de ces malheureux. En fait, les castrats étaient des fils de paysans très pauvres d'Italie méridionale et comme l'espérance de vie était de 25 ans, ils accueillaient ce statut comme une aubaine. Même s'ils ne réussissaient pas dans la musique, ils finissaient au pire curés, ce qui restait une ascension sociale inespérée. Repérés pour leur jolie voix, les jeunes garçons étaient châtrés mais aussi élevés et instruits gratuitement dans un des conservatoires de Naples d'où ils sortaient promis à une belle carrière.
Signor Farinelli, Êtes-vous capable de jouir malgré ce qu'on vous a ôté?
En outre, ils n'étaient pas vraiment privés de vie érotique. Ils étaient stériles, mais non impuissants. Leurs nombreuses aventures avec des femmes pour lesquelles ils étaient une aubaine, le sexe sans risque, ou avec des hommes, le prouvent. Dominique Fernandez poursuit. Rousseau lui-même, dans ses confessions, avoue qu'il s'est pâmé à Venise lorsqu'il a entendu, au fond de sa loge du théâtre San Crisostomo, une voix belle à en mourir. Quel ravissement, quelle extase! Or, on a établi que le chanteur qui l'avait exalté ainsi n'était autre que le grand castrat Giovanni Carestini. Laissons Rousseau à ses contradictions et tournons-nous vers Casanova, vers Mozart, vers Rossini, vers Stendhal, qui tous adoraient les voix de castrat et le disaient ouvertement. Stendhal, contemporain de la disparition des castrats, affirmait qu'avec eux, la musique vocale avait perdu une bonne part de sa magie.
Remontons à l'arrivée des castrats dans les églises.
Direction l'Italie du XVIe siècle.
Au XVIe siècle, l'Église catholique romaine avait essentiellement deux solutions pour faire chanter ses parties de soprano à l'Église. Soit les voix d'enfants, de petits garçons, soprano, soit les voix qu'aujourd'hui on appellerait de contre-ténor, c'est-à-dire les voix de fausset. Mais l'une et l'autre, évidemment, posaient des problèmes. L'enfant va muer. Et la voix de fausset, le contre-ténor, est une voix qui manquera de puissance, qui n'aura pas l'étendue suffisante. Et tout cela était très insatisfaisant.
Et la solution, c'est la castration.
Je vais pouvoir maintenant le couper de la tête vers le pied dans la longueur.
Le jeune garçon doit être castré avant l'adolescence. Le but de la castration est d'empêcher la production d'hormones mâles, la testostérone, responsable de la mue. L'incision se fait au niveau de l'aine. Le cordon inguinal est sectionné, les testicules ne sont plus irrigués, ils s'atrophient rapidement et sont désormais incapables de remplir leurs fonctions. Le chirurgien était souvent le barbier du village.
Donc maintenant je le mets à plat, je vais ciseler dans ce sens-là.
Vous n'êtes qu'un animal sans couilles, ni homme ni femme.
Et cette castration permet d'accéder à la voix divine.
Voilà ce qu'écrivait un théologien du début du XVIIe siècle. La voix est une faculté plus précieuse que la virilité, puisque c'est par la voix et le raisonnement que l'homme se distingue des animaux. Si donc, pour embellir la voix, il est nécessaire de supprimer la virilité, on peut le faire sans impiété.
Est-ce ainsi que les anges naissent d'un coup de couteau de barbier ?
La castration est en fait une pratique ancienne des civilisations asiatiques et orientales. Elle est mentionnée en Perse, en Chine, en Inde, en Grèce, à Rome, dans les mondes byzantins, islamiques et arabes. C'est un phénomène encore actuel. Il existe une caste de castrats dans l'Inde contemporaine, les hijras, de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers selon les estimations. La castration est encore mentionnée aujourd'hui chez certaines ethnies d'Éthiopie. La castration était pratiquée en Grèce dès le 8e siècle avant Jésus-Christ par les prêtres de Cybèle, déesse grecque, mère des dieux qui s'auto-immasculait sur l'autel de la déesse. Aïe.
You are my sister, we were born. So innocent, so full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you to watch me as I sleep. I was so afraid of the night. You seemed to move through the places that I feared. You lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature.
You are my sister, and I love you. May all of your my
so differently then, so similar over the years. The way we loved, the way we experienced pain. So many memories, there's nothing left to gain from remembering. Faces and worlds no one else will ever know.
My sister, and I love you. May all of your dreams come true. You are my sister.
Anthony and the Johnsons qui chantait You Are My Sister sur France Inter dans les routes de la musique. En fait, l'engouement des castrats au XVIIe siècle vient d'ailleurs. Il vient de la guerre des catholiques et des protestants. Décidément, religion et musique sont intimement liées, parfois dans un rapport amour-haine. Et lorsque ce rapport produit des contraintes, le génie des musiciens s'en inspire pour mieux les contourner, pour mieux les exploser. La contre-réforme, la contre-offensive catholique pour combattre le protestantisme qui se répand dans toute l'Europe pousse l'Église à rivaliser de faste, de décoration, de dorure, de torsade baroque, autant pour attirer les fidèles que pour dénoncer l'austérité des protestants. La musique va faire partie de cette campagne de séduction. Seulement voilà, depuis toujours, les femmes sont interdites de chant dans les églises. Alors, on va utiliser les castrats. Oui, la castration des petits enfants de 8 ans pour qu'ils conservent leur voix d'ange, c'est la faute à Saint Paul. Voilà ce qu'il dit Saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de prendre la parole.
La femme se terre dans un coin de l'histoire et attend son heure.
On a cru jusqu'à nos jours qu'il n'y avait qu'un homme au début, créé par Dieu, dont Dieu aurait tiré une côte pour en faire une femme.
La femme sort d'une des côtes de l'homme. La femme était un homme à qui on a coupé le pénis. Il y en a d'autres, des histoires comme ça ?
N'a-t-on pas dit que la femme n'avait pas d'âme ?
Oui, c'est ce fameux concile de je ne sais plus quel siècle, mettons le 6e ou le 8e, au temps des barbares, où des évêques se sont réunis pour discuter sur le mot homo. Homo, homo qui veut dire en latin à la fois homme et femme. Bon, l'un a dit tout d'un coup là-dedans, mais peut-être qu'il n'y a que l'homme qui a une âme, et c'est une sottise.
Et ainsi, la misogynie s'installe dans les églises et les foyers.
Les apôtres même étaient misogynes. Pierre ordonne aux femmes la soumission.
Le mari est la tête de la femme.
Saint Paul n'était pas plus tendre avec les femmes. Il disait que les femmes se taisent à l'église.
Il faut qu'elles soient couvertes à l'église, qu'elles aient un voile sur la tête. Il faut qu'elles se taisent, c'est pas leur affaire.
Et pourquoi ce n'est pas aux hommes de mettre un foulard sur leurs yeux et de garder leur phallus et leur pénis dans leur culotte ?
Si la femme a été si peu considérée depuis des siècles, si cette faute n'en revient pas à Ève.
Ève était faible, elle ouvrit à l'homme les portes du mal. Le péché vient de la faute originelle. Répète, le péché originel fut l'acte de chair. Ève était faible, dis-le, femme. Seigneur.
Pendant des siècles, La femme, c'était le diable qui nous amenait au péché, n'est-ce pas ?
On retrouve Ève.
Trop facile.
Taisez-vous, Elsa. Vous êtes une femme et vous n'êtes pas dans un lieu de culte. Mais des fois, le silence, c'est agréable.
Castrateur va...
Pour saint Paul, la femme est entachée du péché originel de la Genèse, coupable d'avoir poussé Adam à la faute. Son unique rédemption est la maternité. En dehors de ça, qu'elle se taise. Beaucoup moins cool que Jésus, Paul de Tarse. Il n'aime pas les femmes, alors que Jésus, lui, les aime, les femmes. Il n'y a qu'à voir comment Marie-Madeleine lui caresse les jambes avec ses cheveux. Paul, lui, il les réduit au silence dans le culte de Dieu, alors que les prêtresses étaient multiples dans les cultes polythéistes de la Rome antique. Dans les églises, l'interdit de la voix parlée fut étendu au chant. Les pères de l'église ne s'y trompaient pas. La voix de la chanteuse est l'expression profonde de sa sexualité. Par les mécanismes physiques de la production du son, de l'appui de la voix sur le diaphragme à la mise en vibration des cordes vocales par la colonne d'air qui ouvre les poumons et met en mouvement la poitrine, à l'ouverture de la gorge qui évoque l'ouverture du sexe féminin, la jouissance de la chanteuse suscite celle de l'auditeur. On peut donc soutenir que l'interdiction des voix des femmes était en fait une interdiction de la sexualité féminine que venait contourner la voix du castrat.
Comment fait-on pour émasculer un piano à queue ?
Quelle question, Elsa. D'une certaine manière, la castration, c'est un empêchement. Un empêchement des organes sexuels à accomplir leur travail pour l'homme hein, et à développer de la testostérone. Alors la testostérone d'un piano à queue, elle vient d'où ? Elle vient de ces cordes qui sont immenses et qui résonnent avec énormément de puissance. Eh bien, première castration, on va empêcher la corde de sonner.
en posant délicatement son doigt dessus. La castration d'un piano est beaucoup plus douce que la castration qu'on pratiquait autrefois. Regardez le son que j'obtiens. Donc là, je joue mon La. Maintenant, je pose mon doigt sur la corde pour l'empêcher de vibrer. Et j'ai une corde étouffée qui produit un son qui n'est pas sans rappeler celui de l'oud. On a le sentiment que ce sont finalement des cordes de boyau qui vibrent sous le plectre du oudiste. Non, c'est un piano. Simplement, j'ai posé ma main sur la table d'harmonie et j'empêche les cordes de résonner. Alors évidemment, ça m'entraîne, ce son qui est un petit peu oriental comme ça, me pousse à jouer cette gamme d'Orient. Où cette ambiguïté masculin-féminin sévit toujours. Il y a encore dans certaines tribus pachtoudes, les femmes n'ayant pas le droit de danser, ce sont les hommes qui se déguisent en femmes pour danser. Alors d'une certaine manière... Et l'ambiguïté du mode majeur-mineur joue aussi en faveur de cette androgynie. Vous vous souvenez, on a parlé du mode majeur et du mode mineur et des orientaux qui mélangent le majeur et le mineur. Alors maintenant, poussons un petit peu plus loin. Donc là, je suis du côté des chevilles du piano. Maintenant, je vais passer de l'autre côté du marteau, c'est-à-dire dans la partie la plus longue de la corde. Et là, je déplace mon doigt petit à petit. Et là, voilà, écoutez le miracle. J'ai la première harmonique du La. C'est-à-dire que là, je suis sur un La grave. Eh bien, qu'est-ce que j'entends ? J'entends sa première harmonique une octave au-dessus. Simplement en posant mon doigt sur un nœud de la corde afin d'empêcher la fondamentale de jouer. Donc, j'ai la féminité qui est en train de s'exprimer. Regardez cette voix. Et maintenant, si je continue un petit peu plus loin, j'ai d'autres harmoniques qui vont jaillir. La deuxième octave, vous l'entendez ? La première ? Oui, écoutez cette pureté. Donc, c'est-à-dire que j'ai mon La, ma première harmonique et ma deuxième qui résonne, juste en posant mon doigt sur la corde. Mon premier La à l'octave. Et voilà ma deuxième harmonique. Maintenant, je vais pousser un peu plus loin. Et voilà mon Do dièse, ma fameuse tierce. Et encore une octave. Et la septième. Vous vous souvenez ? Toutes les notes qui sont en harmonique et que seuls les chiens et les fous entendent, eh bien, il suffit que je déplace mon doigt en étouffant. Qu'est-ce que je fais finalement ? En déplaçant mon doigt, j'étouffe les notes graves pour laisser les harmoniques dans toute leur pureté. Et là, j'ai la neuvième. Alors, amusez-vous. Si vous avez la chance d'avoir un piano à queue chez vous, avec un piano droit, c'est un petit peu plus difficile puisqu'on a beaucoup moins accès aux cordes. Regardez ce que je joue. Ça en harmonique. Allez, je mélange avec un peu d'oud. Et aujourd'hui, beaucoup de pianistes utilisent ces sons étouffés en percussion. Thank you. Alors, si je développe un jeu maintenant qui suit ces harmoniques, eh ben, je vais jouer qu'avec des quintes, avec des octaves. Et j'ai un jeu qui était un petit peu le jeu de McCoy Tyner, ce pianiste formidable de John Coltrane. Voilà comment, simplement, en brimant ma corde, en empêchant le bas, en empêchant le côté trop viril et masculin de s'exprimer, j'atteins à des finesses inouïes. Juste en touchant un tout petit peu la corde de mon piano à queue.
Some big, some small.
Prince qui nous chantait The Cross, sublime chanson tirée de son album Sign of the Times.
André Manoukian, Les routes de la musique, sur France Inter.
La sexualité du castrat, si elle était rendue possible par l'érection, était néanmoins diminuée. Or, dans le catholicisme, la forme la plus élevée de l'engagement religieux de l'homme est son renoncement à la sexualité par le vœu du célibat. Le castrat, étant privé du pouvoir de procréer, semble participer de ce renoncement. De fait, de nombreux castrats chantaient dans les chœurs des églises et ensuite devenaient prêtres. Le recours au castrat permettait donc à l'Église catholique de résoudre une contradiction entre d'une part la nécessité d'attirer les croyants par des voies pures, tout en restant cohérente avec les fondements du christianisme sur la sexualité qui vise à la contenir, voire à la prohiber. La figure de l'ange dans ses ambiguïtés a souvent exprimé les contradictions de la position du christianisme sur la sexualité. L'image de l'ange est la plus fréquente de toutes les images employées non seulement par l'Église, mais aussi par les contemporains pour qualifier les voies de castrat. Stendhal, dans sa Vie de Rossini, parle de la délicieuse voix de Velluti et des sensations angéliques qu'il lui doit. Moreschi, le dernier des castrats dont on possède des enregistrements, fut appelé l'Angelo di Rome.
Écoutons donc la voix du dernier castrat sur un enregistrement de 1902.
Ce qui frappe à l'écoute de cette voix, c'est d'abord son registre aigu. Certains chanteurs masculins de nos jours chantent eux aussi dans ce registre, en travaillant leur voix de tête, leur registre dit de fossé, de falsetto. Vous savez, quand un homme prend une petite voix aiguë pour imiter une femme, il utilise une voix de fossé. Mais si vous écoutez bien l'enregistrement d'Alessandro Moreschi, vous entendrez qu'il ne chante pas en voix de fossé, mais bien dans son registre naturel.
Qu'entend-on ? Est-ce une bande magnétique froissée ou la voix d'un ange ?
Les anges, je les entends comme des êtres célestes, ce qu'ils sont, difficilement descriptibles.
Ce sont des êtres faits de lumière, de matière plus subtile que nous, mais ce sont des êtres comme nous, invisibles à nos yeux, mais visibles à ceux qui les aiment.
Enfin, ils sont comme nous, mais avec des couilles en moins et des ailes en plus.
Si on devait imaginer que l'on entend un ange, j'aimerais bien l'entendre, à travers la voix des enfants, qui est quand même encore toute pur et pas abîmé encore par la vie.
Un ange nous tendait la main, et lorsqu'il voulait nous parler avec des mots de tous les jours, nous les voyions étinceler sur sa bouche humide d'amour.
Il y a tout ça dans cette voix. Ouvrez grand vos oreilles et avalez sans retenue le chant des castrats, le chant de l'amour.
Les anges ont fait fantasmer les êtres humains depuis l'origine du christianisme et jusqu'à la querelle sur leur sexe dans l'église byzantine pendant le siège de Constantinople par les Turcs en 1453. Parmi les innombrables figures d'anges, on s'attachera à deux images. Celle de l'ange asexué dont on imagine la voix enfantine, pure, immatérielle, désincarnée, et celle de l'ange déchu, identifié au diable dans les croyances du Moyen-Âge.
Chantez pour moi, castrato, encore une fois.
L'image de l'ange asexué explique l'incroyable attraction que les castrats exerçaient sur les femmes, en particulier sur les femmes de l'aristocratie. Souvent mariées en raison d'impératifs sociaux, elles recherchaient les aventures avec les castrats, car d'une part, elles pouvaient ainsi éviter les grossesses, et d'autre part, peut-être leur semblait-il moins menaçant en raison de leurs traits féminins que des partenaires mâles à la sexualité supposément plus brutale. Les premières scènes d'hystérie montant des groupies éperdues s'arrachant les couettes ne datent pas des Beatles, qui, au passage, étaient les premiers rockers à chanter aussi haut, avec les voix de filles. De l'Antiquité à la Renaissance, le public féminin s'arrachait leur faveur. Farinelli, Little Richard, les Beatles, Prince, Frank Ocean, les filles de la haute ont toujours préféré Marvin Gaye à Barry White.
Thank you.
trouble, sugar, moving down the line. I come apart, baby, but that's okay, 'cause trouble, man, don't get in my way. I come apart, baby. I've been for real, baby. Gonna keep moving.
Marvin Gaye qui nous chantait « Trouble Man ». Ce caractère bisexuel de la voix du castrat explique la fascination qu'ils exerçaient. Certains vont même jusqu'à parler de caractère trisexué puisqu'il y a aussi de l'enfant dans cette affaire. Et même d'une enfance éternelle puisque la mue est à jamais bannie. Le castrat échappait à la malédiction de l'âge. Sa voix restait jeune et brillante tout au long d'une carrière d'une longévité exceptionnelle. Pour toutes ces raisons, le castrat n'était pas considéré entièrement comme un être humain, mais plutôt comme un demi-dieu ou un héros. Cette émission était enregistrée par le héros Vincent Godard. Elle était mise en musique par l'ange Muriel Pérez, produite par Fanny Beauvillon et enfin avec la voix malicieuse d'Elsa Denac. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.